Donc, je vais vous présenter une série d'éléments assez exploratoires sur la question de l'utopie, autour de ce thème, repenser l'utopie aujourd'hui entre l'individuel et le collectif. Dans le livre dont il a été question, l'utopie est une composante, mais au bord de la question du travail du sociologue. Et donc, j'ai voulu davantage aujourd'hui entrer dans le domaine de la philosophie politique. Et j'ai déjà abordé l'utopie par certains côtés, mais en fait, j'avais jamais fait une intervention uniquement sur l'utopie, je crois, depuis que je fais des interventions publiques. Et donc, j'ai essayé de rassembler des choses ou des strates de mes réflexions qui ont des formes temporelles assez éloignées, des choses plus récentes et des choses plus anciennes. Et donc, ça sera assez exploratoire. Alors, ma démarche s'inscrit dans le cadre général de mes derniers livres. Il y a celui-là sur la critique sociale. Il y a un chouette texte de Marx qui s'appelle Marx, 21e siècle. Il y a le petit pamphlet La gauche est-elle en état de mort cérébrale? Et le dernier livre qui est sorti il y a quelques mois sur le roman noir américain, Philosophie polar et critique sociale. Et dans ces différents livres, j'essaie de m'inscrire dans un cadre que j'appelle la réinterrogation des logiciels de la critique sociale et de l'émancipation. J'emprunte, disons, une métaphore informatique avec l'expression logiciel, c'est pour pointer un niveau qui n'est pas souvent occupé, parce qu'on a tendance à se précipiter sur les propositions, qui est le niveau des modalités même de formulation des problèmes et des questions pertinentes. Il me semble que ce niveau-là, de la réinterrogation des logiciels, il est particulièrement important dans la période actuelle. Pourquoi? Parce que, disons, si on considère que le mouvement ouvrier en France naît autour de 1830, ça fait donc à peu près presque 2 siècles que des combats sont nés pour mettre en cause le capitalisme et produire une société non capitaliste. Et ça fait 2 siècles que, d'une certaine façon, ça échoue. Bon, alors, c'est peut-être le moment de s'interroger sur les logiciels qu'on a utilisés au 19e et au 20e siècle, aujourd'hui, quand on se situe au 21e siècle. Et c'est d'autant plus important qu'en dehors de cet élément structurel, hein, de ces 2 siècles qui sont passés, on est dans un contexte que j'avais appelé de manière provocatrice la mort cérébrale de la gauche, mais un contexte de tendance désintellectualisatrice qui s'exprime dans les gauches, hein, pas simplement dans la gauche sociale libérale de gouvernement, mais dans une diversité de gauches. Et donc l'importance avec ces deux caractéristiques, disons conjoncturelles et plus structurelles, à long terme, de s'interroger sur la formulation d'une série de questions. Et donc je vais essayer de le faire sur la question de l'utopie ce soir. Quand je parle d'utopie, je m'appuie sur ce qui, dans l'étymologie du mot, renvoie à un lieu qui n'existe pas, un non-lieu, donc une forme d'altérité par rapport à l'ordre social existant, un ailleurs. Ceux qui ont bien balisé cette question de caractérisation de l'utopie sont deux philosophes dont l'un est décédé, mais l'autre est toujours vivant, Paul Ricoeur et Miguel Abensur. Si on prend une série de textes de Paul Ricoeur sur la question de l'utopie, Ricoeur explique par exemple: imaginer le non-lieu, donc l'utopie, c'est maintenir ouvert le champ des possibles. Imaginer le non-lieu, c'est maintenir ouvert le champ des possibles. Et dans un autre ouvrage, il indique: de ce non-lieu, une lueur extérieure est jetée sur notre propre réalité. Donc, à la fois, d'une certaine façon, l'utopie, ça sert comme point d'appui à éclairer le présent, ce qui existe. Et en même temps, l'utopie, ça sert à imaginer d'autres possibilités, hein. Il y a au moins ces deux dimensions qui interviennent. Alors, Miguel Abensur, dans un livre très intéressant qui s'appelle L'utopie de Thomas More à Walter Benjamin de 2000, caractérise l'utopie comme en excès sur tout projet, quelque chose qui excède toute proposition. Et il ajoute: en tant que non-lieu, utopos, hein, utopie, qui vient doubler et hanter tout lieu. Donc l'utopie aurait une double fonction critique et imaginante vis-à-vis du réel existant, comme une sorte de point d'appui mental extérieur qui nous permet de nous distancier, d'envisager d'autres possibilités. Mais Abensur ajoute une exigence supplémentaire quant aux enjeux présents de l'utopie par rapport aux expériences totalitaires du XXe siècle. En tenant compte de ces expériences totalitaires du XXe siècle, Il s'agirait, dit-il, de repérer les points aveugles de l'émancipation moderne, les points aveugles, les foyers de mythologisation par où elle prête le flanc à l'inversion. C'est-à-dire quand l'utopie se retourne contre elle-même et de l'émancipation conduit à l'oppression. C'est une leçon qu'on doit aussi tenir compte du XXe siècle. Bref, il s'agit d'introduire une distance vis-à-vis des risques d'absolutisation et de dogmatisation de l'utopie elle-même. Alors, cette distance me semble pouvoir être mieux prise si l'on donne des tonalités pragmatiques à l'utopie. Pragmatique au sens de la philosophie pragmatiste américaine, avec des figures comme John Dewey, hein, le pragmatisme est un des grands courants de la philosophie américaine. Et pragmatique aussi en sens plus récent de ce qu'on appelle la sociologie pragmatique, dont je parle dans ce livre, qui s'est développée en France à partir de la fin des années 1980, à partir des travaux de Luc Boltanski et Laurent Thévenot. Ces tonalités pragmatiques, à la fois philosophiques et sociologiques, viseraient à mieux insérer l'utopie dans un rapport aux expériences et à l'action. Comment réinstaurer un rapport de l'utopie aux expériences et à l'action ? C'est pourquoi j'utilise l'analogie avec la boussole ou avec l'horizon. Une boussole utopique ou un horizon utopique qui constitue un point d'appui de l'action nourri des expériences. Mais cette boussole ou cet horizon, il ne s'agit pas de l'appliquer. Il ne s'agit pas d'appliquer dans ce sens-là une utopie, au sens de la boussole ou de l'horizon. Mais il s'agit d'avoir un système d'orientation, d'une certaine façon, à partir du présent. Système d'orientation, d'ailleurs, qui pourrait être définissable en cours de chemin. Ainsi conçu, la boussole utopique ou l'horizon utopique permettent de, on pourrait dire, désabsolutiser et dédogmatiser pragmatiquement l'utopie. Et on répond au problème de Abensur. Alors, je vais avoir deux grandes parties dans mon intervention. Je vais poursuivre dans ce sillon pragmatique en explorant la question de l'utopie méthodologiquement. Méthodologiquement, j'entends par là comment formuler le problème de l'utopie. Bon. Et dans une deuxième partie, je commencerai à entrer dans les contenus possibles de l'utopie aujourd'hui. Et je vais m'arrêter simplement sur un terrain, c'est sur lequel j'ai le plus travaillé, qui est le terrain des rapports entre l'individuel et le collectif. Alors voilà, ça sera une vision un peu partielle et provisoire du problème de l'utopie à partir de ces deux grandes entrées. Et ces pistes d'ailleurs s'adressent potentiellement à l'ensemble des gauches, hein, en tout cas les gauches qui n'ont pas perdu l'horizon de l'émancipation sociale, c'est-à-dire des gauches les plus réformatrices aux gauches les plus révolutionnaires, des gauches les plus institutionnelles aux gauches les plus libertaires. La façon dont je vais traiter les choses n'est pas réservée à un secteur de ces gauches, hein. Chacun pourra, disons, tirer des formulations différentes de ce type de réflexion. Alors d'abord, des pistes pragmatiques pour repenser le cadre conceptuel et méthodologique de l'utopie. Alors, je vais utiliser pour ça deux auteurs pour une reformulation pragmatique de l'utopie aujourd'hui. Un auteur contemporain, un sociologue dont j'ai déjà parlé, Luc Boltanski, mais dans ses derniers travaux. Et puis un classique, au départ même l'inventeur de la notion d'utopie, qui est Thomas More. Mais je vais relire Thomas More de manière un peu décalée par rapport à la façon dont on lit Thomas More habituellement. Alors, premier élément, l'utopie réintégrée dans l'espace des expériences. Et c'est le couple réalité-monde chez Luc Boltanski. Alors, en 2009, Luc Boltanski fait paraître un livre très important qui n'a sans doute pas eu l'écho que le livre mérite parce qu'il... C'est un des grands livres, disons, de sciences sociales de ce début du XXIe siècle. Il s'intitule « De la critique », il est sous-titré « Précis de sociologie de l'émancipation ». Et Luc Boltanski a ouvert un nouvel espace de recherche qui vise à articuler deux pôles des sciences sociales contemporaines. Le pôle de la sociologie critique, tel qu'il l'avait pratiqué avec Pierre Bourdieu, dont il était un collaborateur dans les années 1970. Et puis une sociologie pragmatique telle qu'il avait initiée avec Laurent Thévenot à partir de la fin des années 80. Et il essaye de faire le lien entre ces deux pôles. Ce nouvel espace défini par De la critique de Boltanski est celui d'une théorie critique et pragmatique, donc, qui tente d'appréhender à la fois les contraintes structurelles qui pèsent sur les individus et les groupes, des dominations, des inégalités, et en même temps qui essaye de prendre en compte les capacités propres de ces individus, de ces groupes, qui sont utilisés dans l'action, d'où la dimension pragmatique. Et donc, il renoue aussi un lien entre les sciences sociales et l'émancipation, d'où le sous-titre, hein, du livre précis de sociologie de l'émancipation. Alors, pour nourrir théoriquement cette démarche, Boltanski introduit une différence qui est décisive et qui peut paraître un peu difficile au départ, mais on va essayer de mieux la comprendre, entre la réalité et le monde. Pour lui, la réalité et le monde sont des choses différentes. La réalité, c'est quoi ? C'est ce qui serait construit socialement par les logiques dominantes, par les formats dominants, ou du moins les formats les plus institués. Par exemple, ça va être les logiques d'organisation des institutions scolaires, par exemple, ou d'autres institutions étatiques. Alors, pourquoi avoir besoin de distinguer cette réalité avec le monde ? Ben, le monde, c'est, nous dit Boltanski, tout ce qui arrive. C'est justement ce qui ne pourrait pas être résorbé dans la réalité, qui déborde la réalité. Le monde, en fait, ce serait un lieu que la réalité tend à rendre invisible. Mais c'est là aussi où la réalité peut puiser des sources de transformation. Voilà comment Boltanski définit précisément le monde. Il est l'immanence même, ce en quoi chacun se trouve pris en tant qu'il est plongé dans le flux de la vie, mais sans nécessairement faire accéder au registre de la parole et encore moins de l'action délibérée les expériences qui s'y enracinent. C'est le flot des expériences de la vie qui ne rentre pas nécessairement dans la réalité, c'est-à-dire dans les formats dominants de la réalité. Alors, Boltanski n'explore pas le rapport entre ces notions de réalité et de monde et l'utopie. C'est moi qui m'engage sur ce terrain. Hein. Mais il me semble que, justement, on peut penser d'abord que le monde est principalement, pragmatiquement, branché sur les expériences, le flux de la vie. Bon. Toutefois, il a à un certain point de vue une coloration utopique, dans le sens d'une perspective d'ailleurs, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais une utopie qui est pragmatisée, on pourrait dire, parce qu'elle est saisie dans les expériences. Cet ailleurs revêt deux modalités, alors. Premièrement, des expériences qui n'ont pas encore de correspondance dans la réalité dominante, et qui viennent la troubler par leur altérité. Bon, par exemple, avant que toute une série de droits puisse rentrer en vigueur en concernant la reconnaissance de l'homosexualité, l'égalité des droits, l'homosexualité est une expérience qui était dans le monde, mais qui n'était pas dans la réalité. Hein. Et à un moment donné, il a fallu qu'elle rentre dans la réalité. Donc des expériences qui n'ont pas de correspondance dans la réalité dominante viennent troubler la réalité dominante. Et puis aussi, une deuxième catégorie qui sont des expériences de l'imaginaire. Des expériences qui travaillent donc l'ailleurs dans des sens plus inédits, mais toujours dans l'expérience. Hein. Donc à la fois des expériences plus concrètes, mais qui n'ont pas de correspondance dans la réalité, et puis des expériences qui sont imaginaires, parce que l'imaginaire participe des expériences, et qui permettent d'explorer des directions beaucoup plus inédites de l'imagination. Alors, l'avantage de la notion de monde par rapport à celle de réalité, bah, c'est justement d'être branché sur des composantes utopiques, donc des sens de l'ailleurs, mais prise dans le flux mouvement de l'expérience, le flux mouvement de la vie. Et donc en s'éloignant de l'accusation traditionnelle d'irréalisme qu'on adresse en général à l'utopie. C'est-à-dire, on réinsère ce faisant l'utopie dans le cours des expériences. Alors, à partir de ce couple réalité-monde, Boltanski distingue deux types d'épreuves dans la vie sociale, des types d'épreuves par lesquelles passent les individus. Ce qu'il appelle les épreuves de réalité, qui renvoient à la réalité, et les épreuves existentielles, qui renvoient au monde. Les épreuves de réalité ont à voir avec une critique qu'il appelle réformiste du réel. Parce que les épreuves de la réalité s'intéressent aux écarts entre les pratiques effectives et les idéaux de la réalité. Les idéaux portés par les formats sociaux dominants, préétablis. Par exemple, des réformes de l'école qui se font au nom de l'égalité des chances. On sait bien que l'égalité des chances n'existe pas, et pourtant, c'est un idéal qui est inscrit dans la réalité. Et donc, les épreuves de réalité, c'est celles qui vont essayer de rapprocher la réalité de leurs idéaux, mais la réalité socialement dominante. C'est en ce sens-là que c'est une critique réformiste. Et les épreuves existentielles, elles, portent une critique radicale ou révolutionnaire, nous dit Boltanski, dans la mesure, nous dit-il, où elles ouvrent un chemin vers le monde. Et il ajoute, en travaillant à rendre visibles et compréhensibles des expériences existentielles, et partant en mettant en péril la complétude des définitions établies. Par exemple, comme l'expérience de l'homosexualité, a remis en cause les définitions établies de ce que c'est qu'un couple, de ce que sont les sexes, etc., etc. C'est ainsi que l'expérience du monde ouvre, nous dit Boltanski, des possibles latéraux par rapport à la réalité qui, elle, est instituée. Les épreuves existentielles, donc, peuvent nous permettre de réinsérer l'utopique dans l'action pour modifier la réalité. Dans ce cas, l'utopique revêt deux grandes modalités qui sont puisées dans le monde. La formulation d'expériences non formulées dans la réalité, j'ai parlé par exemple de l'expérience de l'homosexualité, à une certaine époque, ou la formulation d'expériences imaginaires, qui viennent contrecarrer, disons, la réalité socialement dominante. Alors, pour mieux comprendre ces catégories qui sont abstraites, je vais passer par, en prenant l'exemple du roman noir américain, puisque c'est l'objet de mon dernier livre, qui peut être intéressant de ce point de vue. Prenons un des classiques du roman noir américain, qui est David Goodis, qui écrit, disons, des années 1930 aux années 1960. David Goodis est un auteur très pessimiste, très noir, même très fataliste, mais de temps en temps, on peut dire que des trouées utopiques remonte de temps en temps du monde, dans Goodis, et vont venir troubler l'ordre de la réalité. L'ordre de la réalité, ben, c'est la dureté des contraintes sociales inégalitaires, qui en général triomphent. Il y a très peu de livres de Goodis qui finissent bien. Ces trouées utopiques, elles passent souvent sous la forme de la rencontre amoureuse chez Goodis, et dans d'autres éléments du roman noir aussi, c'est un élément important du roman noir. Par exemple, dans le roman La pêche aux avaros de 1967, c'est le dernier roman de Goodis. Voilà un passage. La seule chose qui me revienne, c'est une sorte de frémissement intérieur, une vibration, une sorte de contact entre deux personnes. Seulement, ça n'a rien de physique, c'est beaucoup plus profond que ça. Et quand on l'a éprouvé une fois, on en reste marqué. Voilà ce qu'on peut appeler une expérience existentielle, qui peut venir troubler le cadre de la réalité, c'est-à-dire les cadres dominants de la réalité. C'est-à-dire, l'irruption du monde trouble la réalité immédiatement sous le choc de l'expérience. Et peut-être à terme peut conduire à transformer la réalité. L'utopie pragmatique issue du monde prend alors la forme du peut-être. Dans peut-être, il faut bien noter le fait que le verbe être est caractérisé par le possible, peut. Donc, l'être est défini par la possibilité. Mais si on revient à l'adverbe, on remet le tiré dans peut-être, un tel possible est marqué par le doute et l'incertitude, qui est souvent induit par l'adverbe. L'adverbe peut-être exprime une hésitation entre le pessimisme et l'optimisme, on peut dire, appréhendé comme deux éventualités qui sont incluses dans un processus qui est strictement déterminé à l'avance. Le peut-être ouvre la figure du pari, avec un lot de risques. Et donc cette philosophie du peut-être, elle est d'une certaine façon dans une forme de funambulisme entre la réalité socialement dominante et les potentialités du monde qui n'ont pas émergé. Chez Goodis, cette figure du peut-être apparaît directement, par exemple, le thème du peut-être dans un roman de 1954 qui s'appelle « La blonde au coin de la rue » où justement il y a un passage où il y a un travail autour de la figure du peut-être. Bon. C'est le cas de jeunes issus de milieux populaires qui sont traités dans le roman. Bon. Tout ce temps passé, c'était un pari sur l'avenir. Leur numéro sortirait peut-être un jour ou il ne sortirait jamais. Mais tant que les dés n'avaient pas cessé de rouler, il y avait toujours un certain éclat dans ce qu'ils faisaient. Le simple fait de se dire que leur numéro sortirait peut-être ou qu'il pouvait ne jamais sortir, peut-être et encore peut-être ou peut-être pas, mais tant qu'il y avait un peut-être, il leur restait l'éclat. C'est-à-dire, le peut-être ici est l'aiguillon du rêve, malgré la conscience de la noirceur du réel. On pourrait dire même en affrontant la noirceur du réel, hein, sans se masquer dans la mièvrerie. Et dans ce cas, d'ailleurs, du roman de Goodis, le rêve de Ralph n'aboutira pas. La figure aimée qu'il a rencontrée, Edna, va s'éloigner, et celle de Lénore, la blonde au coin de la rue, justement du titre, incarnant une sorte d'existence plus banalement médiocre, va s'imposer à la fin du roman. Voilà donc une première aide à la redéfinition, disons, méthodologique, conceptuelle de la question de l'utopie à partir de cette catégorisation qu'on trouve chez Boltanski de la différence entre la réalité et le monde et les épreuves de réalité et les épreuves existentielles. Deuxième ressource pour penser cette reformulation pragmatique de l'utopie, c'est la figure du dialogue de l'utopie et du pragmatisme, et cela c'est l'idée d'une façon de relire Thomas More autrement, l'auteur d'Utopie. Donc on a ce livre classique de Thomas More, Utopia, 1516, donc qui invente le mot, et qui va nous donner des éléments d'amorce, d'un dialogue entre l'utopie, au sens de la valorisation d'ailleurs par rapport à l'existant, et puis le pragmatisme, au sens d'un souci des effets de son action sur la réalité. Alors, l'ouvrage de Thomas More est un dialogue, c'est souvent oublié dans l'analyse de Thomas More, c'est un dialogue entre Thomas More lui-même, qui se met en scène dans le livre, et puis Raphaël Claudet, qui est un voyageur imaginaire, qui revient de cette fameuse île d'utopie, qui fonctionne sur des bases radicalement différentes de la société de l'époque. Or, l'histoire de la pensée politique a souvent attribué à Thomas More les positions utopistes d'Claudet, étrangement. Bon. Et on a peu saisi le caractère dialogique du livre. Bon. Or, il me semble que la structure dialogique du livre, notamment dans toute la première partie, qui est beaucoup plus un dialogue, la deuxième partie, c'est sous la forme d'un dialogue, mais où Claudet prend beaucoup plus de place, parce que il va raconter comment ça se passe dans l'île d'Utopie. Mais il me semble que la structure dialogique du livre oriente davantage le regard sur la dynamique du dialogue, en particulier dans cette première partie. Si l'on suit cette dimension dialogique, ce qui est important ou intéressant ici, ce n'est pas le fonctionnement de l'île d'Utopie, radicalement différente de fonctionnement existant, notamment avec le fait que l'argent a été aboli, mais c'est la confrontation entre Thomas More, qui se met en scène, conseiller du prince, qui a les mains, on peut dire, dans les cambouis de l'action, et Thomas More, en tant que personnalité, était un conseiller du prince, hein, c'était sa fonction, et Raphaël Claudet, qui est un voyageur, revient de l'impossible et qui est rétif à tout compromis avec les institutions existantes. Donc, comme si la structure dialogique de l'utopie de Thomas More ouvrait, disons, un autre cours entre le jeu des contraintes du présent et les possibilités de l'avenir. D'abord, il faut noter que, comme il était lui-même conseiller du prince, Thomas More est un bon connaisseur des institutions monarchiques de l'époque. Et il va faire la leçon à son voyageur imaginaire. Je cite par exemple, « Il me semble qu'il serait digne d'un esprit aussi généreux, aussi philosophe que le vôtre, d'appliquer tous ses talents à la direction des affaires publiques. Dussiez-vous compromettre votre bien-être personnel ? Or, le moyen de le faire avec le plus de fruits, c'est d'entrer dans le conseil de quelques grands princes. » Donc, l'idée de Thomas More, ici, c'est de dire, si on veut éclairer l'action publique, il faut être conseiller du prince. Par exemple, si on prend les discussions actuelles de la gauche, c'est il faut aller au gouvernement, ou il faut aller dans les exécutifs régionaux ou départementaux. Ça, c'est la position de Thomas More. Claudet, qui découvre cette étrange île d'utopie, va résister à l'argumentation réaliste de Thomas More. Il ne faut pas penser non plus que la position de Thomas More narrateur et la position de Thomas More personne réelle. Il se met en scène dans un dialogue avec un personnage imaginaire. Voilà ce que dit Claudet. « Savez-vous ce qui m'arriverait de procéder ainsi, donc de rentrer dans le conseil d'un prince ? C'est qu'en voulant guérir la folie des autres, je tomberais en démence avec eux. Il n'y a donc aucun moyen d'être utile à l'État dans ces hautes régions. L'air qu'on y respire corrompt la vertu même. Les hommes qui vous entourent, loin de se corriger à vos leçons, vous dépravent par leur contact et l'influence de leur perversité. Et si vous conservez votre âme pure et incorruptible, vous servez le deux manteaux à leur immoralité et à leur folie. » Qu'est-ce que dit Claudet ici à Thomas More, qui lui conseille de devenir conseiller du prince ? Finalement, si je rentre dans les institutions existantes, je vais leur ressembler. Ce qui est une pratique assez, habituelle, c'est-à-dire soit dans des formes dites réformistes, soit dans des formes dites révolutionnaires, au cours du XXe siècle, on a beaucoup vu cette figure des gens qui prennent le pouvoir pour changer le monde, soit pour des raisons réformatrices, soit pour des raisons révolutionnaires, et qui en fait sont pris par le pouvoir, qu'ils croyaient prendre. Et il envisage aussi la possibilité que finalement ils résistent à la corruption. Il y a dans les institutions des gens qui résistent à la corruption, mais est-ce qu'ils ne sont pas simplement des alibis de ceux qui sont corrompus ? Alors, face à une telle crainte qui a souvent été justifiée par les enseignements de l'histoire vis-à-vis du pouvoir corrupteur des institutions dominantes, Thomas More a d'autres ressources dans sa besace. Il va contredire encore Claudet. D'abord, la prudente prise en compte des défauts de la nature humaine. Cette prudente prise en compte des défauts de la nature humaine nous entraînerait, dit-il, à choisir plutôt l'amélioration que la perfection. Je cite encore Thomas More. Suivez la route oblique, elle vous conduira plus sûrement au but. Et si vos efforts ne peuvent servir à effectuer le bien, qu'ils servent du moins à diminuer l'intensité du mal. Car tout ne sera bon et parfait que lorsque les hommes seront eux-mêmes bons et parfaits, et avant cela, des siècles passeront. Là, Thomas More, narrateur, nous la joue, on peut dire, du côté des tenants de la gauche la plus instituée par rapport aux tenants de la gauche radicale qui sont le plus hostiles à la présence dans les institutions. C'est-à-dire l'idée, il faut mettre les mains dans le cambouis si on veut améliorer les choses. Et autrement, finalement, on risque de rien faire, de ne pas améliorer. Au moins, agissons pour diminuer l'intensité du mal. Et pourtant, Thomas More va être narrateur dans le livre, va être un peu ébranlé par le récit d'Hitler des comptes quant au fonctionnement de cette république utopienne qui est fondée sur un constat d'ailleurs révolutionnaire pour l'époque et encore pour aujourd'hui. Le constat de cette république, c'est partout où la propriété est un droit individuel où toute chose se mesure par l'argent, là on ne pourra jamais organiser la justice et la prospérité sociale. Une critique, disons, radicale de l'argent et de la propriété privée. Et alors Thomas More va à la fois garder une distance ironique face aux prétentions utopistes de son interlocuteur, l'idée de que l'utopiste est quelqu'un d'un peu sectaire d'une certaine façon, qui a peu d'humour. Je cite Thomas More, je n'étais pas bien sûr qu'il souffrit patiemment la contradiction. Il parle beaucoup, mais il a peu d'humour et peu de rapport critique à lui-même, ce Hitler. Mais Thomas More n'en conclut pas pour autant le livre. D'une certaine façon où il s'est déplacé dans le dialogue. Je cite Thomas More à la fin du livre, « Car si d'un côté je ne puis consentir à tout ce qui a été dit par cet homme, d'un autre côté, je confesse aisément qu'il y a chez les utopiens une foule de choses que je souhaite voir établies dans nos cités. » C'est-à-dire que Thomas More s'est déplacé dans le cours du dialogue. Donc il y a une dynamique dialogique qui conduit à une position qui est différente. L'intérêt du dialogue, peut-être, ça pourrait être qu'aucun des arguments échangés entre les deux personnages n'est complètement invalidé. L'argument de « les institutions sont corruptrices » n'est pas invalidé par Thomas More. Et l'argument de « il faut les mettre les mains dans le cambouis pour diminuer l'intensité du mal » n'est pas invalidé non plus. C'est comme si l'intérêt du dialogue, c'était une invitation à les tenir ensemble dans une tension. Comme si, d'une certaine façon, chacun devait tenir les deux bouts, ou chaque groupe, les deux bouts du dialogue, les deux pôles. Le pôle de l'argumentation pragmatique et le pôle de l'argumentation utopique. Hitler et Thomas More, narrateur. Alors, certes, il y a eu des changements dans le passage des cours royales au régime représentatif moderne, mais il me semble que le choc fécond des parts respectives de vérité de More et d'Hitler a une certaine actualité, après un XXe siècle qui a été parsemé tant d'échecs réalistes que d'échecs utopistes. Et donc, peut-être c'est une invitation à ce que ce dialogue du réel et de l'utopie se pratique en nous-mêmes. Que ça devienne une pratique individuelle et collective, ce dialogue. Celle qui est dans le roman. Et c'est une invitation à ce que la tension entre les deux pôles se faufile dans nos propres repères individuels comme dans la vie des institutions. Associations, partis, syndicats, de lutte ou des institutions de gestion. Cela pourrait concerner la tension entre la présence dans les institutions existantes et leur critique, ça serait pour les rangs les plus réformateurs de la gauche, ou pour les plus radicaux, ça serait une tension entre l'immersion dans des expérimentations locales pratiques et un ailleurs utopique. Dans les deux cas, on retrouverait une invitation à un dialogue entre les deux pôles, du pragmatisme et de l'utopie. Plutôt que de passer par le choix unilatéral d'un pôle contre un autre, on pourrait dire que cette problématisation de l'utopie devient dialogique. Et donc on a une seconde reformulation pragmatique, après le couple monde-réalité de Boltanski, de l'utopie. Voilà un premier jet qui nous permet, disons, d'intervenir sur le plan, disons, méthodologique et conceptuel. Comment formuler le problème de l'utopie? Et, parce qu'on reproche souvent ça à la gauche, et notamment aux courants les plus radicaux de la gauche, comment est-ce qu'on peut commencer à donner un contenu à cette utopie? Alors c'est ma deuxième partie. Piste pour repenser le contenu actuel de l'utopie, le cas de l'individuel et du collectif. Donc là, je vais passer, disons, du méthodologique, comment on définit l'utopie, comment on appréhende l'utopie, au contenu d'utopie possible aujourd'hui. Et je m'arrête, disons, sur ce terrain que je connais le mieux, puisque j'ai le plus travaillé, tant en sociologie qu'en philosophie politique, celui des rapports entre l'individuel et le collectif. Alors, les mouvements sociaux et la gauche, en France, en Europe, c'est moins le cas en Amérique du Nord, c'est aussi le cas en Amérique du Sud. Les mouvements sociaux et la gauche en Europe, en tout cas, sont marqués par certaines routines quant au rapport entre l'individuel et le collectif, tant dans la critique du monde existant que dans la vision de l'émancipation. C'est ce que j'appelle, moi, l'hégémonie du logiciel collectiviste. Pourquoi hégémonie du logiciel collectiviste? Cette vision des choses laisse entendre que la droite et le capitalisme auraient une sorte de monopole de l'individu et que la gauche devrait prendre le parti du collectif contre l'individuel. C'est encore la vision dominante de la plupart des gauches, hein, y compris le PS, dans leur discours, hein, comme trame intellectuelle. Ce logiciel collectiviste n'a pas toujours dominé les gauches. En fait, il devient hégémonique en France après la guerre de 14-18. Il va s'imposer dans les courants politiques, socialistes, communistes, et dans les courants syndicaux principaux. En dehors, disons, des courants libertaires et anarchistes qui seront plus marginaux, mais qui maintiendront, disons, une plus grande place de l'individu dans la thématique. Où il y a aussi quelques tentatives, disons, individuelles, isolées, mais qui ont eu peu d'écho, comme celle de Lucien Febvre au sein du Parti communiste, avec son livre classique « Marxisme et théorie de la personnalité » en 1969, et qui, d'une certaine façon, est resté un livre isolé, qui n'a pas vraiment eu d'effet sur le logiciel communiste. Avant 14-18, au 19e siècle et au début du 20e siècle, des anarchistes comme Proudhon, Bakounine, Kropotkin, des syndicalistes révolutionnaires qui dirigent les Bourses du Travail et la première CGT, comme Péoutier, Pouget, les socialistes républicains comme Jaurès, ou encore Marx, dont je considère que c'est un des auteurs les plus individualistes. Ces auteurs vont s'efforcer en général d'associer deux choses. Le développement d'autonomie individuelle et les relations de solidarité. La promotion de la créativité personnelle et des cadres collectifs. Hein, le logiciel collectiviste dit qu'il faut choisir l'un contre l'autre. Hein. Tous ces courants essayent plutôt d'articuler les deux pôles. Bon. Alors, revenir sur cette question apparaît particulièrement importante aujourd'hui dans le cadre contemporain, puisque on vit dans des sociétés qu'on appelle individualistes, en tout cas en Occident, mais avec la globalisation, ça a des effets plus larges que l'Occident même. Et c'est dans ces sociétés individualistes occidentales, l'individu apparaît, disons, davantage valorisé dans l'idéal plus que dans les faits, mais comme idéal de ces sociétés. Or, si on veut suivre l'injonction méthodologique de Marx et Engels dans l'idéologie allemande, eh ben, il faut partir des individus réels, comme disent Marx et Engels. Et c'est ce qui distingue alors Marx et Engels des utopistes, qui partent d'individus imaginaires, tels que on aimerait qu'ils soient. Si on veut partir des individus réels, eh ben, il faut partir des individus individualisés de nos sociétés. Et alors la plupart de la gauche n'aime pas ça, elle préfère penser que c'était mieux avant, et de considérer qu'il faudrait revenir ou forcer, etc., avec des individus qui seraient altruistes, qui s'aimeraient les uns les autres, etc., etc. Peut-être quelque chose qui n'a jamais existé, mais qui est largement présent dans le fantasme collectif. Et donc, si on veut changer les sociétés individualistes et capitalistes, eh ben, il faut partir des individus individualistes qui sont dans ces sociétés capitalistes. Ça, c'est une injonction marxienne de base, on peut dire. Partir des individus réels. Alors, je vais proposer deux pistes pour aller dans ce sens. Une piste que je vais emprunter à un philosophe contemporain mort aujourd'hui, Emmanuel Lévinas, et puis une piste que je vais construire notamment dans un dialogue et une tension entre Marx et Foucault. La première piste, c'est, en partant d'Emmanuel Lévinas, c'est la tension entre individualité et justice sociale. Alors, Miguel Abensur est un de ceux qui le premier a saisi la dimension utopique qui est présente dans l'œuvre, disons, philosophique de Lévinas. Alors, je ne le traite pas exactement de la même façon qu'Abensur, mais il faut le savoir. Généralement, Lévinas est vu surtout comme une éthique ou une philosophie morale, et peu ont vu la dimension de philosophie politique qu'on trouve chez Lévinas, en dehors d'Abensur, et la dimension même utopique. Alors, moi, je prends les choses un peu différemment d'Abensur chez Lévinas. Cette première piste, quand une réévaluation de l'individualité dans un rapport à la solidarité, hein, c'est ça, retrouver un peu l'espace qui était avant la guerre de 14-18, dans la pluralité de ces courants du mouvement ouvrier de la gauche, ça vise à mettre en rapport autrement les singularités individuelles et la justice sociale. Alors, qu'est-ce que c'est que la justice sociale ? La justice sociale, c'est quelque chose qui va répartir de manière plus juste des biens. Ça suppose en général une mesure commune entre les individus pour pouvoir répartir ces biens, dans la perspective de critères communs de répartition plus équitables des ressources. On peut dire que la justice sociale, et on hérite ça, disons, de la vision de la justice qu'on trouve dès Platon et Aristote, la justice sociale, ça vise à rendre des activités et des personnes commensurables. Commensurables, c'est-à-dire appréhendables à partir de critères communs, mesurables dans un espace commun. Donc c'est la vision qu'on trouve en germe chez Platon et Aristote et qu'on trouve chez les théoriciens contemporains de la justice comme celui qui a été le plus discuté, disons, des années 70 jusqu'à aujourd'hui, qui est l'américain John Rawls. Mais si on en reste à cet aspect-là, on oublie ce qui tend à échapper à la mesure commune, à l'espace commun, c'est-à-dire l'incommensurable, dont fait partie l'individualité singulière, qui n'est pas réductible au commun, justement. Et Emmanuel Lévinas est d'abord quelqu'un qui a pensé, disons, l'incommensurable, c'est-à-dire la singularité individuelle au croisement de ces deux sources principales qui sont, d'une part, la phénoménologie du XXe siècle, hein, celle qui se développe à partir du Searle, et puis la tradition juive, puisque c'est un des grands commentateurs des textes juifs religieux. Et donc Lévinas donc, est connu comme étant un philosophe de la singularité du visage d'autrui. Alors la singularité, elle est vue dans le rapport à autrui, elle est vue dans une relation intersubjective. On n'est pas chez Stirner où la singularité est le moi isolé ou même l'autre est une menace. La singularité, elle passe par une relation intersubjective, à travers le rapport au visage d'autrui. Et Lévinas a insisté sur le fait que je ne peux jamais complètement comprendre autrui, on pourrait dire, au double sens de comprendre, au sens de le connaître totalement et au sens de l'englober, complètement l'englober. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui échappe à mes prises totalisatrices sur autrui, c'est justement l'unicité individuelle. J'ai l'habitude de donner cet exemple qui peut être parlant. La philosophie classique, pour Lévinas, ou une tendance de la philosophie classique, parce qu'il caricature un peu, qui va, disons, de Platon jusqu'à Heidegger en passant par Hegel, elle reste marquée pour lui par la notion de totalité. L'idée de la connaissance, la possibilité d'englober les choses à travers des concepts, notamment. Que font les philosophes de la totalité, en général, pour Lévinas ? Ben, si on prend l'être, c'est comme une baignoire, hein. Et je fais le tour de la baignoire avec le concept de baignoire, et j'englobe par mon regard aussi la baignoire, qui est un élément qui est complètement cohérent, homogène, dont je peux faire le tour. Lévinas ne dit pas qu'on ne puisse pas avoir une intelligibilité, des intelligibilités relatives de la baignoire. Et sans doute l'intelligibilité, du plombier vis-à-vis de la baignoire ou d'un historien qui examinerait l'histoire de la baignoire ou d'un sociologue qui examinerait les usages de la baignoire sera à la fois différente. Mais ce que nous dit Lévinas, et c'est ça l'apport à l'histoire de la philosophie, c'est qu'il a découvert un truc, c'est qu'il y a un petit trou dans la baignoire de l'être. C'est-à-dire qu'il y a un trou dans la baignoire. Alors, il y a une petite fuite qui fait que la totalité ne peut pas résorber la chose. Hein. D'où le titre d'un de ses grands livres qui est « Totalité infinie ». Donc, il y a quelque chose qui empêche, dans la singularité individuelle, de les emprisonner dans nos catégories générales. Non pas d'avoir des vues partielles, mais d'avoir une vue totale. Alors, Lévinas, donc, est un des grands penseurs de la singularité individuelle, de la singularité d'autrui, mais il a suggéré aussi une piste dans la mise en rapport des deux dimensions. Et c'est en ce sens qu'il pose des questions politiques intéressantes. C'est-à-dire le lien entre la part de l'incommensurable individuel et la part du commun, hein, de l'espace commun, du commensurable. C'est ce qu'il écrit par exemple dans un livre d'entretien « Éthique et infini » en 82. Voilà la question qu'il pose. « Comment se fait-il qu'il y ait justice ? Je réponds que c'est le fait de la multiplicité des hommes, la présence du tiers à côté d'autrui, qui conditionne les lois et instaure la justice. Si je suis seul face à l'autre, je lui dois tout, mais il y a le tiers. Il faut par conséquent peser, penser, juger en comparant l'incomparable. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que Si je, pour Lévinas, si je suis pris dans une relation singulière avec autrui, je puis tendre à tout lui donner. Mais en même temps, je ne suis jamais seul avec autrui, puisqu'il y a le tiers, c'est-à-dire tous les autres. Prenons un exemple, parce que j'avais fait une enquête ethnographique et par entretien à l'hôpital à partir d'un modèle emprunté à Lévinas sur les rapports infirmières-malades. Eh bien, une infirmière, elle est dans un rapport, disons, très singulier avec un malade, un soir, de garde, un malade mourant, puisque moi j'ai déjà observé dans un hôpital, dans un service de médecine générale. Elle est dans un rapport particulièrement, disons, empathique, et notamment parce que ce malade-là lui rappelle son père, qui était mort quelques années auparavant. Elle lui tient la main, etc. On est dans une relation singulière où il semble qu'il n'y a que les deux personnes singulières. Le problème, c'est qu'on est en hôpital, dans un service public, et à un moment donné, elle va regarder sa montre. Et elle va réintroduire la question de la justice, c'est-à-dire du tiers. C'est-à-dire elle doit s'occuper de 10 autres malades dans la nuit. Et donc c'est ça la question du rapport entre le commensurable et l'incommensurable, entre la relation singulière et l'espace commun. C'est la montre ici, dans le cas de cette observation à l'hôpital. Donc Lévinas a commencé à pointer, on pourrait dire, la nécessaire et irréconciliable tension entre le caractère incommensurable de la singularité, d'une part, et l'espace commun de mesure et de justice, d'autre part. Ce qu'il appelle comparer l'incomparable. Et bien, justement, comparer l'incomparable, c'est une formulation de la façon de penser les rapports entre la solidarité et l'individualité. La gauche, avec le logiciel collectiviste et les gauches, pense que la solidarité doit englober l'individualité. Ici, Lévinas nous donne une piste qui est celle de la tension entre les deux, une sorte de tension infinie. Il nous oblige à penser en tension plutôt que dans une harmonie, en fait, entre les deux pôles, ou d'une hégémonie de l'un sur l'autre. Et c'est ça qu'il appelle comparer l'incomparable. Une telle perspective ne caractérise pas une société émancipée comme un cadre harmonieux, comme souvent on a l'impression avec l'utopie, justement. Harmonieux, c'est souvent un vocabulaire d'inspiration religieuse. Ça ne caractérise pas la société émancipée comme un dépassement des contradictions sociales dans une vision du communisme, par exemple, qui serait inspirée de la philosophie dialectique de Hegel, le thème du dépassement des contradictions. Mais la formule « comparer l'incomparable » assume et affronte une dynamique infinie de contradictions entre la logique de l'individualité et la logique de la justice sociale. Contradiction infinie, tension infinie qui ne peut jamais s'arrêter, d'une certaine façon, ou dont on peut même penser que c'est une des dynamiques de la société. Cet espace qui n'est pas celui de l'harmonie, qui ne n'est pas celui d'inspiration hegelienne, de la synthèse, du dépassement des contradictions, c'est ce qu'un socialiste libertaire, Pierre-Joseph Proudhon, appelait l'équilibration des contraires. Et Proudhon est un des premiers critiques des schémas d'inspiration hegelienne, de l'idée du dépassement des contradictions nécessaires, avec l'idée que, au contraire, il y a, disons, des contraires qui vont se transformer, qui vont bouger, etc., qui ne sont plus exactement les mêmes, mais la dynamique des contradictions ne peut pas s'arrêter. Et cette équilibration des contraires, elle contribue aussi à désabsolutiser le rapport à l'utopie, en privilégiant les tensions sur la quête de l'harmonie. Si on reprend le problème de Habensour que j'ai indiqué en introduction, c'est-à-dire tenir compte aussi pour l'utopie des déboires totalitaires du XXe siècle, quand l'utopie se retourne contre elle-même pour créer l'oppression. Donc, première piste. Deuxième et dernière piste, ce que j'ai appelé les conditions sociales du bricolage de soi, qui passe par un va-et-vient entre Marx et Michel Foucault, et pas seulement d'ailleurs. On peut affiner ce pôle de la singularité individuelle qu'on trouve dans la tension lévinassienne en se posant la question, toujours dans le rapport au commun, aux conditions collectives, d'un autre aspect de cette singularité individuelle qui est le problème de la construction de soi. Le problème de la construction de soi qui va nous permettre de rapprocher Marx, mais aussi Michel Foucault, dans son prolongement, les thèmes comme ceux de Michel Onfray, la sculpture de soi, ou des passages avec l'apport d'un écrivain britannique qui est à peu près de la même époque que Marx, un peu plus jeune, qui vit à Londres à peu près au même moment, qui est Oscar Wilde. Alors, d'abord Marx. Marx va critiquer, parce que Marx, je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de textes de Marx, des textes de jeunesse jusqu'au Capital, donc aux textes les plus tardifs, même jusqu'à un de ses derniers textes, La critique du programme de Goethe, où le point d'appui principal de Marx, c'est l'individualité, ce n'est pas le collectif, dans La critique du capitalisme. Et notamment, Marx va critiquer une double réduction de l'individu, réduction par le règne de la marchandise, hein, où c'est l'argent qui domine, première réduction, et réduction par la spécialisation capitaliste du travail dans l'usine, où on appauvrit de plus en plus les tâches. Et pour mettre en cause cette double réduction capitaliste de l'individualité par le règne de la marchandise et par la division du travail, Marx s'appuie sur une figure idéale qu'il appelle homme total ou individu complet, en fonction des textes. Cette figure idéale, elle va être explicitée dans un court passage de l'idéologie allemande, en 1845-1846. C'est un des rares passages où Marx nous dit qu'est-ce que ça serait le communisme. Il n'y a pas beaucoup de passages de Marx sur cette question. Alors voilà ce qu'écrit Marx. Dans la société communiste, où chacun n'a pas une sphère d'activité exclusive, donc chacun n'est pas réduit à une spécialité simplement. Hein. La société réglemente la production générale, ce qui crée pour moi la possibilité de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de pratiquer l'élevage le soir, de faire de la critique après le repas, selon mon bon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique. Donc, l'idéal de cet homme total ou individu complet chez Marx, c'est l'idée que je peux être chasseur, pêcheur, philosophe, agriculteur, et donc je peux développer une variété de capacités contre la réduction marchande et de la spécialisation du travail du capitalisme. Donc Marx et Engels insistent sur le caractère potentiellement pluridimensionnel des individus, susceptible de développer une variété de capacités créatrices, contre l'individu spécialisé, étriqué, marchandisé du capitalisme. C'est-à-dire contre ce que, bien plus tard, un de ceux qui suit Marx de ce point de vue, un des rares qui suit Marx de ce point de vue de ce point-là, c'est le théoricien critique Herbert Marcuse, d'abord en Allemagne et puis après aux États-Unis, dans son livre intitulé justement en 1964 « L'homme unidimensionnel ». L'homme unidimensionnel, c'est l'homme du capitalisme. Et au contraire, ce qui est contre l'homme unidimensionnel du capitalisme, c'est l'homme pluridimensionnel. Or, ce n'est pas sans rapport avec des préoccupations de Michel Foucault à la fin de sa vie, dans les années 80, en lien avec ses derniers travaux de philosophie sur l'antiquité, disons, grecque et chrétienne tardive, autour de la question de la subjectivation et du souci de soi. Et de ces travaux, disons, philosophiques et historiques, Foucault va aussi tirer des questionnements proprement politiques. Par exemple, en 1983, il lance une piste en se disant, ce qui manque aux mouvements sociaux, c'est une nouvelle éthique. Et quel serait un élément de cette nouvelle éthique? Il pose la question et dit, mais la vie de tout individu ne pourrait-elle pas être une œuvre d'art? Alors, une médiation possible entre l'homme complet ou l'individu total de Marx et l'individu qui se construit lui-même comme œuvre d'art de Foucault, c'est Oscar Wilde, notamment, qui est connu comme étant l'auteur du portrait de Dorian Gray, qui a été emprisonné pour homosexualité à la fin de sa vie en Grande-Bretagne. C'est pour ça qu'il s'est exilé assez pauvre en France. C'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui sa tombe au Père Lachaise. Et Oscar Wilde édite un petit essai en 1891 qui s'appelle « L'âme humaine sous le socialisme », qui est une prise de parti pour le socialisme, qui d'ailleurs est réédité aujourd'hui sous le titre « L'âme humaine, mais le socialisme a disparu du titre ». Il semble que ce ne soit pas vraiment la mode, le mot socialisme. Bon, l'âme peut-être, mais le socialisme pas tellement. Wilde est d'ailleurs le premier à avoir utilisé la formule de la construction de soi comme œuvre d'art. Je renvoie ici au très bon livre de Didier Ribon sur Réflexion sur la question gay, où il fait un parallèle assez intéressant entre Oscar Wilde et Michel Foucault. Et Oscar Wilde, dans ce petit livre, va proposer, dans cette perspective, une alliance entre le socialisme et l'individualisme. Et pourquoi? Pour développer la logique de l'être contre la logique de l'avoir capitaliste. En fait, Oscar Wilde dit dans ce texte que le capitalisme a créé un faux individualisme, un individualisme de l'avoir, un individualisme de la propriété privée. Et le vrai individualisme, pour Oscar Wilde, c'est l'individualisme de l'être. C'est pour ça qu'il propose une alliance entre le socialisme qui crée des conditions collectives qui permettraient justement que chacun puisse accéder à cette visée de la construction de soi comme œuvre d'art. Ouais. C'est, c'est pas la construction de soi comme œuvre d'art pour les quelques privilégiés, c'est la construction de soi comme œuvre d'art, comme quelque chose à la disposition de tous. Donc c'est, on pourrait dire que chez Oscar Wilde, dans ce cas-là, c'est une forme de dandysme démocratique et socialiste. Cet individualisme d'Oscar Wilde, comme l'individualisme de Marx, est un individualisme pour tous, un individualisme démocratique qui suppose la constitution de conditions sociales de la construction de soi comme œuvre d'art. Alors que l'individualisme du capitalisme néolibéral est un individualisme concurrentiel pour quelques-uns, ceux qui gagnent la compétition. Et c'est là une des grandes erreurs sans doute des gauches avec la domination du logiciel collectiviste. Au lieu de proposer un individualisme démocratique associé à la perspective de la justice sociale ou en tension avec la perspective de la justice sociale, la gauche a tendance à proposer le collectif contre l'individualisme. Comme si l'individualisme néolibéral était l'individualisme, avait le monopole de l'individu. Mais Marx pourrait être aussi critiqué dans ses formulations, notamment dans ses formulations ambiguës qui tournent autour de sa théorie de l'aliénation qu'on trouve dans ses textes de jeunesse, notamment dans les manuscrits de 1844. Et on peut critiquer Marx à partir de Foucault. Pourquoi ? Parce que dans le thème de l'aliénation, l'idée qu'on est aliéné, l'émancipation apparaît souvent hantée par le retour à une forme d'hypothétique authenticité, comme s'il s'agissait, il y avait une vraie authenticité de la nature humaine et il fallait la retrouver. Et donc qui constituerait alors une sorte d'essence de l'homme à rétablir. Et Foucault a été justement amené à critiquer une tendance essentialiste dans cette vision de Marx, au sens où il y a un soi-même qui est posé a priori comme une entité stable, homogène, comme commune essence qu'on devrait retrouver d'une certaine façon, contre l'aliénation. Et Foucault, lui, va privilégier la perspective de la création de soi-même, qui n'est pas le fait de se retrouver soi-même dans une essence qui serait préétablie, mais de se créer. Par exemple, dans un texte de 78, il écrit « Nous tournons là autour d'une phrase de Marx, « L'homme produit l'homme, comment l'entendre ?»« Pour moi, ce qui doit être produit, ce n'est pas l'homme tel que l'aurait dessiné la nature, ou tel que son essence le prescrit. Nous avons à produire quelque chose qui n'existe pas encore, et dont nous ne pouvons pas savoir ce qu'il sera. » C'est bien l'idée d'une création qui n'est pas un retour à. Et il va élargir sa perspective dans un entretien de 1983, toujours dans la critique du thème de l'authenticité. Le thème de l'authenticité renvoie explicitement ou non à un mode d'être du sujet défini par son adéquation à lui-même, à son essence. Or, il me semble que le rapport à soi doit pouvoir être décrit selon les multiplicités de formes, dont l'authenticité, entre guillemets, n'est qu'une des modalités possibles. Il faut concevoir que le rapport à soi est structuré comme une pratique qui peut avoir ses modèles, ses conformités, ses variantes, mais aussi ses créations. La pratique de soi est un domaine complexe et multiple. Dans ce cas, Foucault élargit la problématique de la constitution de soi à des modèles, des conformités, des variantes, mais aussi des créations. Le mouvement d'autocréation de soi inclut alors les matériaux antérieurs, à travers les modèles, charriés par la vie de chacun, au sein de certains rapports sociaux, tout en laissant ouvert des espaces créatifs, entre, disons, un certain métissage, une certaine invention. Donc il y a, dans les va-et-vient entre Marx et Foucault, il faut aussi voir les critiques que l'un peut apporter à l'autre, sur leurs impensés, et notamment sur cette question de l'authenticité Foucault par rapport à Marx. En retour, Marx peut nous apporter des éléments critiques intéressants sur Foucault. Foucault apparaît par moments ambigu et hésitant quant aux conditions sociales du déploiement de la construction de soi. Dans le même article de 1983, dans l'entretien cité, il va se poser la question toujours de la transformation de la morale individuelle et le lien entre les transformations de la morale individuelle et les transformations des autres structures sociales, économiques et politiques, dit-il. Et il suppose que les transformations de la morale individuelle n'ont pas besoin des transformations des structures sociales, économiques et politiques. C'est-à-dire qu'on pourrait transformer l'individu, la morale individuelle, sans avoir besoin de passer par la transformation des autres structures. Ce qu'il dit dans ce texte. Et ici, on peut dire qu'il tend à sous-estimer les contraintes que les rapports de domination ont sur l'éthique de soi. Non pas que ces contraintes empêchent des transformations de soi ou des modifications de soi, mais sans doute les limitent, ce poids des contraintes, des inégalités, des dominations. Limitent une modification de soi qui serait engagée que sur le seul terrain du rapport à soi, et pas aussi sur la transformation des contraintes qui pèsent sur le rapport à soi, contraintes sociales, politiques, économiques. Et donc, on peut préférer ici la vision de Marx, plus dialectique de Marx et Engels dans l'idéologie allemande, qui ont bien envisagé des conditions larges de la transformation de soi. je cite un passage, dans l'activité révolutionnaire, la transformation de soi-même coïncide avec la transformation des conditions, des circonstances extérieures. Dans ce passage, dans l'activité révolutionnaire, la transformation de soi-même coïncide avec la transformation des circonstances extérieures, la question de la transformation de soi est bien prise en compte par Marx, à la différence de nombre de marxistes, mais elle est associée à des transformations collectives des structures sociales existantes. Quand j'ai commencé à militer dans un horizon plutôt marxiste, à la fin des années 70, dans mon lycée, on avait deux grandes options. Soit on choisissait la transformation des structures sociales, soit on choisissait la transformation de soi. Si on choisissait la transformation des structures sociales, on choisissait marxisme, c'est ce que j'ai fait, et autrement, on choisissait bouddhisme. Et on ne pouvait pas choisir les deux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'idée qu'on pouvait choisir bouddhisme et marxisme en même temps. C'était deux options exclusives. Et personne ne nous avait dit que, d'une certaine façon, Marx et Engels avaient envisagé les deux. La question de la transformation de soi et la question de la transformation des structures sociales. Parce que la lecture de Marx était très engoncée dans ce logiciel collectiviste.
Dans le cas que vous citez, ça devait être occulté par la critique de la religion, je suppose.
Aussi, oui. Mais en même temps, il y avait un certain écho, on était dans le post-68, religions asiatiques, on les prenait comme n'étant pas complètement des religions à l'époque. Alors, il faut toutefois apporter un bémol par rapport à Marx, et là on revient à une critique que peut donner Foucault. Dans la formule de Marx et Engels, dans l'activité révolutionnaire, la transformation de soi-même coïncide avec la transformation des circonstances extérieures, il y a l'idée qu'on peut boucler les choses en même temps. C'est-à-dire que Marx et Engels ne prennent pas en compte, à la différence d'une pensée comme celle de Foucault ou comme celle de Lévinas, les décalages entre les deux pôles, les tensions entre les deux pôles. La transformation de soi et la transformation des circonstances extérieures ont des relations. C'est ça qui est intéressant dans la phrase. Est-ce qu'elles coïncident? Ça m'étonnerait. Parce que ce n'est pas exactement le même plan. Et donc, il peut y avoir des décalages, des inerties, des effets à moyen terme, etc., etc. Et dans cette formule, il y a l'idée qu'on boucle tout dans une sorte d'harmonie, qui est toujours une pensée de la totalité. Et donc, il faudrait prendre aussi en compte les décalage entre les deux pôles, transformation de soi, transformation des circonstances extérieures, et sortir de la logique de l'harmonie. Enfin, et ça sera mon dernier questionnement, et ça c'est pas par rapport à Marx, mais là ça sera plutôt une question inspirée de la sociologie critique de Pierre Bourdieu, qui pourrait être posée à Oscar Wilde, à Michel Foucault ou à Michel Onfray, qui lui utilise le thème de la sculpture de soi. En allant chercher des ressources critiques chez Bourdieu, on peut affiner la perspective. C'est ce qu'on appelle classiquement en sciences sociales l'ethnocentrisme. Alors, c'est quoi l'ethnocentrisme? Ethno, c'est groupe humain, centrisme, c'est centré. C'est d'être centré sur les catégories de son propre groupe humain et de penser que les critères de son propre groupe sont des critères universels. Par exemple, c'est de penser en Occident que nous, on est la civilisation et les autres, c'est la barbarie. Voilà, typique de l'ethnocentrisme. Alors, cet ethnocentrisme entre civilisations, il a bien été critiqué par Lévi-Strauss, et les sociologues comme Bourdieu et d'autres l'ont élargi à ce qu'ils appellent l'ethnocentrisme de classe ou ethnocentrisme social. Où, entre les groupes sociaux d'une même société, il y a aussi ces formes d'ethnocentrisme. Alors, dans la formule « la construction de soi comme œuvre d'art » ou dans la formule « sculpture de soi », la figure de l'œuvre d'art ou de la sculpture fait signe du côté de ce que Bourdieu appelle le « capital culturel ». Qu'est-ce que c'est que le capital culturel pour Bourdieu? C'est les ressources culturelles légitimes. Ce n'est pas toutes les ressources culturelles, mais qui sont celles qui sont légitimes dans une société à un moment donné et que tendent à monopoliser des groupes sociaux dominants dans une hiérarchie culturelle. Par exemple, aller souvent au musée et à l'opéra, ça fait partie du capital culturel, mais savoir bien jouer à la pétanque, non. Et donc on peut se demander s'il n'y a pas une pente à un certain ethnocentrisme de classe à valoriser la figure de l'œuvre d'art ou de la sculpture dans l'émancipation, puisque l'œuvre d'art et la sculpture, justement, sont des figures socialement marquées dans la hiérarchie du capital culturel. C'est pour ça que je propose une transformation du vocabulaire, de changer le vocabulaire de la construction de soi, en lui donnant une totalité sociale aussi qui devienne plus polyphonique, plus démocratique, on pourrait dire. C'est pour ça que je propose de passer du thème de la construction de soi comme œuvre d'art ou de la sculpture de soi au thème du bricolage de soi. Dans cette perspective du bricolage de soi, l'œuvre d'art pourrait être associée à d'autres éléments qui ne relèvent pas des formes culturelles les plus légitimes. Toute une série de gestes qui sont beaucoup plus humblement quotidiens pour se constituer une dignité dans la vie ordinaire, qui ferait vivre alors une forme de dandysme, si on revient à Oscar Wilde, pleinement démocratique. Bref, la construction de soi se déploierait à la fois sur le terrain du musée, de l'opéra, du théâtre, dans le rapport aux cultures ordinaires, qui m'intéresse beaucoup, les chansons, le cinéma, les séries télévisées, mais aussi du bricolage proprement dit, du jardinage ordinaire, des savoir-faire culinaires ou œnologiques, la convivialité des pratiques culturelles populaires, etc., etc. Bref, ce que j'appelle la diversité des territoires de la dignité ordinaire. Si j'ai eu cette idée, je le dois en fait à mon grand-père, qui était ouvrier et qui avait aménagé dans son HLM dans la banlieue de Bordeaux, un atelier donc, où en dehors de l'usine, il inventait des objets étranges. Comme par exemple un appareil à découper les oursins qui faisait l'admiration de la famille, pour lequel il n'a jamais eu aucun brevet, mais qui était très utile pour découper les oursins. Et donc, en inventant ces objets étranges, il s'inventait lui-même aussi. Et donc la question de la construction de soi n'est pas simplement la question du rapport aux formes culturelles légitimes. Alors, en guise de conclusion, je vais un peu ramasser les différents éléments que j'ai présentés ici. Donc, une série de pistes qui visent à reformuler ces logiciels de la critique sociale et l'émancipation sur le problème de la question de l'utopie aujourd'hui. D'abord, j'ai essayé d'essayer une sorte de reconfiguration pragmatique de l'utopie sur le plan méthodologique, en essayant d'échapper à cette forme d'absolutisation, dogmatisation qui est liée à la mise à distance des expériences totalitaires du XXe siècle. D'abord, donc, l'utopie se présente comme une boussole ou un horizon redéfinissable en cours de route dans le mouvement de l'action émancipatrice, dans l'action. L'utopie est réinsérée dans le monde opposé à la réalité, socialement formatée de manière dominante. Et donc, l'utopie, en étant réinscrite dans le monde, elle est réinscrite dans l'univers des expériences, dont les expériences imaginaires sont une composante. Enfin, l'idée de la promotion d'un dialogue entre le pragmatisme et l'utopie, qui met davantage l'utopie en rapport avec les effets sur le réel. Deuxième plan que j'ai essayé d'aborder, sur le plan du contenu d'une utopie émancipatrice pour aujourd'hui, sur le terrain des relations entre l'individuel et le collectif, deux axes. J'ai essayé de dessiner deux axes contre l'hégémonie du logiciel collectiviste à gauche. Donc, la tension infinie entre singularité individuelle et justice sociale qui est empruntée à Lévinas, et deuxièmement, l'interrogation sur l'émergence de conditions sociales du déploiement pour chacun d'un bricolage de soi, qui mettrait en tension, disons, Marx et Foucault, dans un va-et-vient entre le travail sur soi et l'action collective transformatrice. Alors, des éléments transversaux apparaissent aussi à la fin de ce parcours, en tout cas à la fin provisoire. Premier élément transversal, l'importance de la tension dans toute la façon de procéder. Tension entre auteurs, tension entre concepts, entre problèmes, entre logiques, etc. Les tensions étant un outil de dédogmatisation, de désabsolutisation de l'utopie, ce que Proudhon appelle l'équilibration des contraires. Rupture aussi avec le dogmatisme dans le rapport au travail théorique, qu'on trouve malheureusement parfois dans les courants marxistes aujourd'hui, ceux qui se réclament encore du marxisme. Par exemple, c'est le dogmatisme type « il faut défendre le marxisme contre Foucault » ou « il faut défendre le marxisme contre Bourdieu », »« il faut défendre le marxisme contre Escoriadis », etc. etc. Il y a une série d'auteurs qui s'inscrivent dans cette logique. Et donc, une logique qui s'efforce de préserver la pureté fantasmatique d'un courant intellectuel par rapport à ce qui serait l'extérieur et qui le menacerait. Et rompre avec ce dogmatisme, ça passe par la mise en rapport, la mise en dialogue, la mise en tension, le métissage de traditions, d'auteurs, de concepts d'origine diverse, plutôt que de travailler toujours sur la réitération d'une tradition. Enfin, ce type de démarche exploratoire, tâtonnante, invite également la pensée critique à moins d'arrogance, à plus d'humilité, quand elle croit pouvoir tout ranger dans ses concepts à prétention totalisante, et qui la fait souvent passer à côté des complications des sociétés humaines. Et c'est en ce sens-là que je terminerai, puisque c'est ce qui m'a occupé ces derniers temps, c'est-à-dire ce livre sur le roman noir, je terminerai sur une phrase tirée d'un roman policier de James Salis. James Salis est connu aujourd'hui parce qu'un de ses romans, Drive, a été adapté au cinéma et il a connu un certain succès. Là, c'est issu d'un de ses romans qui s'appelle Salt River de 2007, qui se situe dans la série de ses romans autour d'un personnage qui est John Turner, qui est un ancien flic, qui ensuite est devenu ancien psychologue, et qui va s'inscrire dans un coin rural aux États-Unis et va finir par devenir shérif adjoint. Et Salis écrit ainsi quelque chose qui m'a intéressé. que j'ai repris d'ailleurs dans Où est passée la critique sociale au début de l'introduction. Le genre humain s'est toujours acharné à trouver un concept unique capable de tout expliquer, religion, visite d'extraterrestres, marxisme, théorie des cordes, psychologie, etc. Voilà.